Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà.
Alors, donnez-moi ça, vous montrez.
Et je souris. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là. Alors, vous avez des ennuis. Il faut servir. Souriez et partez.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Et vous êtes là, bienvenue. Vous faites bien de vous asseoir à notre table aujourd'hui encore. On va se régaler, peut-être même se tordre le ventre, mais de rire, rassurez-vous, comme nous, en préparant la table pour cette émission. Aujourd'hui avec nous, l'acteur comique adoré des Français, je crois, du monde entier. Celui qui fait pleurer de rire toutes les générations, de l'ancêtre au petit dernier qui sait à peine marcher. Il joue nos pires défauts et nous rend du coup bien plus aimables. Lui, c'est Louis.
Qui c'est qui a fait ce livre, hein?
C'est lui, monsieur.
C'est lui, là?
Oui, oui.
Dis donc, c'est toi qui a fait ça?
Oui, alors.
Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà.
Je m'en fous, par exemple, chef.
Je m'en fous, moi, je m'en fous du chef.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, mon petit Marcel?
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a rien, on a des broutilles.
C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon.
Ben, c'est ce que je lui disais.
Oh non, 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 il disait de l'estragon.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul?
Ah, c'est le petit filleul, ça?
Tu es Louise?
Ah, oh, le petit filleul, plein de tête. Ça va, Louise?
Très bien.
Et vous, ça va, petit Marcel?
Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas?
Ah oui.
Vous avez reconnu bien sûr Louis de Funès, on est dans une des scènes du Grand Restaurant. L'acteur pile électrique, acteur formidable à qui la Cinémathèque à Paris consacre une exposition, une première exposition en réalité sur Louis de Funès. Un peu beaucoup grâce à vous, Alain Crugère, bonjour.
Bonjour, grâce à Louis, parce que c'est vrai que sans Louis c'était impossible. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que dans la scène qu'on vient d'entendre du Grand Restaurant... Le petit filleul, c'est son fils, c'est Olivier de Funès, qui va jouer 6 films avec lui.
Et qui l'accompagne, y compris pour aller au restaurant.
Voilà.
Alain Crugère, vous êtes cinéphile, gastronome, producteur, mangeur. On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture, c'est vous. Et vous avez un défaut qui, ici, est une qualité, je dois l'avouer. Vous regardez le monde vu du ventre. Et Louis de Funès à table, alors c'est un peu la grande question.
Mais à table, c'est absolument essentiel chez lui. D'abord, c'est un homme qui a eu faim. C'est un homme qui a eu faim parce que, même s'il a un joli nom, Louis de Funès de Galarza, eh bien, sa famille a été totalement ruinée. Son père les a abandonnés en
simulant. D'origine espagnole ?
D'origine espagnole, des deux côtés, père et mère. Et c'est vrai que de Funès a eu faim dans son enfance, a vécu un peu au pensionnat aussi, où c'était pas très délicieux. Et ensuite, il y a eu la guerre. Et pendant la guerre, il a mangé ce qu'il appelle ses nouilles grises, c'est-à-dire que généralement, il ne mangeait pas. C'est-à-dire qu'il jouait du piano pendant toute la nuit, pendant quasiment 12 heures d'affilée. Et au petit matin, il allait se coucher. Il y avait un menuisier en dessous qui faisait du bruit. Donc, c'était pas très bon.
Louis de Funès, alors, dans ses films, non seulement il mange, mais il fait manger. Il fait à manger. La nourriture, c'est un peu un outil du comique, un outil de communion avec les spectateurs. Le langage universel, cette nourriture que
oui,
tout le monde se reconnaît.
C'est ça, c'est le plus grand dénominateur commun, c'est que tout le monde mange. Si on ne mange pas, on meurt. Et avec lui, ce qui est bien, c'est qu'on mange et on meurt de rire. Et dans Le Grand Restaurant, qui est, je dirais, un peu son premier film, puisque c'est un film qu'il a failli réaliser, c'est un film qu'il a coécrit avec son comparse, Monsieur Alain, le fils d'André Hunebelle, le cinéaste de Fantomas. Ce qui est amusant, c'est que on sent qu'il y a du plaisir. Et quand il raconte, par exemple, la recette du soufflé de pommes de terre, on sent qu'il y a plus que du plaisir.
Mais on va l'entendre, Alain Crugère, évidemment, cette recette du soufflé de pommes de terre. Mais d'abord, je voudrais un petit peu entendre une scène particulière d'un film qui s'appelle Le Tatoué, dans lequel il y a l'évocation du vrai goût de la vie, en somme, hein, de manger, vivre et savourer.
Encore un peu de cidre.
Ah ben, je me demande si ça serait bien prudent.
Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température?
Voilà, monsieur.
Très bien.
Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes?
Si.
Mais non.
Si. Me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des choux farcis, je ne ferais même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Ça, donnez-nous deux calvars.
Ouh là là.
On va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui. Mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez. Donnez-moi du chou farci.
Ah, vous voyez?
Ah oui.
Bon, ben il est dedans, derrière ça, devant petit civalier.
Bien, monsieur. Oh non. Ou alors avec un petit calva.
Ah non, avec un bon petit Beaujolais qui a du corps.
Ah bon, alors faites chambrer le Beaujolais, vous.
Ah, jamais, voyons. Jamais, à la température de la cave.
Julien a 57.
Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit, il n'y a que votre argent qui vit. Vous, vous êtes un fantôme.
Oh, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà.
Ah, ben dites donc, il y a eu progrès.
Vous allez voir. Hé, ça vient le Beaujolais. Allez, on y va. C'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon, bon, regardez-moi ça, là, là.
Eh ben, mon Dieu.
C'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon.
Ah, oui.
C'est tellement ça.
C'est merveilleux d'ailleurs d'entendre cet appétit. Alors Jean Gabin ne se force pas, hein. Jean Gabin
c'est
et Lino Ventura, c'est des mâchoires, c'est vraiment après un repas comme celui-ci, Jean Gabin il était capable d'en refaire un autre parce qu'on lui avait donné une bonne adresse. D'ailleurs ce qui est amusant c'est que le chou farci, c'est un peu le repas que l'on peut prendre en sortant de la cinémathèque parce que à 2 minutes à pied, il y a l'auberge avéronaise et il y a un chou farci absolument formidable.
Est-ce que ça fait partie aussi d'une espèce de pardon quand on regarde un film et qu'on se dit ah mais moi non plus, je mangerai jamais ça. On s'identifie plus facilement à justement arriver à manger autant.
Je sais pas, je crois qu'il y a une espèce de grossophobie chez Louis de Funès. C'est que, d'abord, c'est un petit homme, hein, c'est un homme d'1m63, assez chétif, mais qui a, c'est un corps génial, c'est un corps totalement délirant, qui arrive à le faire bondir, à le faire tordre de rire.
L'étirer. Hein.
Mais ce qui est incroyable, c'est que on sent qu'il y a quand même cette obsession du poids parce que il a une scène dans le Knock avec Jouvet, dans lequel il dit j'ai perdu 100 grammes. C'est sa seule réplique. Et il y a aussi cette obsession du poids dans un film, moi que j'adore, qui est un sketch qui s'appelle Les Bons Vivants, qui est écrit par Audiard et filmé par Georges Lautner. Et dans ce film, il pèse celui qui va devenir le commissaire Maigret, c'est-à-dire Jean Richard, et il discute sur le poids. Et on sent qu'il y a cette obsession. Et cet homme qui a manqué de nourriture pendant la guerre, qui a vraiment eu faim, il l'exprime régulièrement. Il y a une scène qu'il fait exploser, c'est la scène de Jambier.
Allons-y vite. Il est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre.
C'est vous qui avez fait ça?
Et alors?
Eh, compliment, c'est du joli travail. Plein cochon qui n'a pas eu à se plaindre.
Vous y connaissez?
J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette.
Bon, on parlera de ça après, hein.
Et vous, c'est pas la palette que vous préférez?
Si. Ah, à propos, elle les a trouvés bons, les rognons, madame Mariette?
Ils étaient pas mauvais, mais un petit peu trop frais tout de même. J'aime mieux la palette. Avec un petit vin d'Alsace. Tiens, à propos de vin d'Alsace. C'est pas du rhum que vous avez là?
Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron veut te payer le coup, il est assez grand pour le faire, hein?
Oui, mais il n'y pensait pas.
Bon, bah servez-vous et perdons pas de temps.
Et donc cette scène, elle est extraordinaire.
Ah ben cette scène est absolument géniale. Et alors elle est d'autant plus géniale qu'il est à côté quand même de deux monstres sacrés parce que Bourvil et Gabin, c'est quand même des acteurs immenses. Et là, ils rentrent dans la bande. Et ce film.
Dans la cour des grands.
C'est la cour des grands. Et de Funès qui est quand même identifié, hein. Là on est en 56, il a 42 ans, il a déjà eu quelques succès, il a déjà joué dans Allez belle bacchante avec la bande de Robert Derry où il faisait le poulet, comme ça. Il était policier d'ailleurs entre autres. Et ce qui est incroyable, c'est que on sent que là il a trouvé sa place. Et d'ailleurs, il va être reconnu par les critiques de l'époque. François Truffaut, dans Art, dit, voilà, il dit même qu'il est meilleur que Gabin.
Alors, vous disiez, juste avant qu'on écoute cet extrait, janvier...
Mais parce que
dans cette scène, il faut rappeler qu'il y a donc une petite ouverture qui donne sur la rue. Et donc, en donnant cette adresse, Jambier, 45 rue Poliveau, là, on est dans un contexte historique bien précis, celui du marché noir.
C'est le marché noir. Jambier, 45 rue Poliveau, il est épicier, mais il est épicier de marché noir. Et donc, il a dans sa cave des trésors, des jambons de Noël. Et quelques temps auparavant, Bourvil est venu jouer de l'accordéon pendant qu'il égorgeait le cochon. Et d'ailleurs, il y a, dans l'expo, il y a une photo que j'adore, où on voit Claude Autant-Lara, il a le script du film dans la main, et il est à côté du cochon qui est couché, bon, qui ne doit pas être très vivant d'ailleurs, et on a l'impression qu'il est en train de lui faire répéter son texte. Il ne faut pas oublier que le cochon, c'est l'acteur principal du film.
Avec ces films aussi, on revisite un peu l'histoire en dressant des personnages dont on se dit qu'ils sont assez abjects.
Oui, l'une des idées, c'était de raconter une espèce d'histoire alternative de la France, d'un homme qui est né le 31 juillet 1914, c'est-à-dire le jour de l'assassinat de Jean Jaurès, c'est-à-dire le jour de la veille de la guerre de 14, et qui va mourir en 1983 à l'arrivée du Minitel. Et au début du tournant de la rigueur du deuxième gouvernement Mitterrand. Et ce qui est frappant, c'est que cet homme va traverser son siècle avec une croissance dans ses entrées qui sera proportionnelle à la croissance de la France des Trente Glorieuses et qui va être la France essentiellement de la deux chevaux à la déesse de Gaulle à Pompidou.
On a parlé de la faim, on parle du marché noir et de tout ce qui a entouré la guerre. Même si on est dans les années 60, on est 20 ans après la guerre, donc elle est encore très récente dans les esprits. Il y a la peur aussi qu'accompagne les personnages.
La traversée de Paris, pour moi, c'est un film d'abord remarquable. C'est un film d'après une nouvelle de Marcel Aimé où Jambier s'appelait Jamblier, peut-être un clin d'œil à l'acteur qui était pressenti par Aimé pour jouer le rôle de Bourville. Et c'est un film, dans 1956, c'est exactement 10 ans avant un autre film sur la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la traversée de Paris, c'est la vision noire, très noire, et donc réaliste de la guerre, et la grande vadrouille, ça va être la version glorieuse, joyeuse,
multicolore
et optimiste.
Et optimiste. Dans la grande vadrouille, justement, il y a cette scène où c'est la nuit, c'est un chef d'orchestre, Louis de Funès.
Kapellmeister, donc il reste chef.
Il reste chef, donc il est chef, mais cette fois-ci, le chef se lève dans la nuit pour aller dans la cuisine, parce qu'il a une petite faim.
Il a une boule d'angoisse.
Et forcément, il fait de drôles de rencontres.
Bon, dann stürmer. Verzeihung, wer sind Sie?
Qui c'est?
Qui êtes-vous?
Je suis le mari de la patronne, je suis le maître de l'hôtel, et puis je...
Le patron?
Non, pas patron, la patronne, comme ça.
Ah, patronne. Comestible ici, essen, manger.
Non, il n'y a pas de manger, il n'y a rien, c'est fini, il n'y a plus rien, pas de manger.
C'est ça?
Ah oui, mais j'ai oublié, c'est comestible. C'est comestible.
Comestible? C'est toi, officier allemand?
C'est le officier allemand?
L'animateur général?
Ah, c'est un général? Oh, mais les comestibles, good général. Good général, c'est
Non, je pas no essen officier allemand. No.
Gut,
Cannibal. On a pas là.
Et bien sûr, alors ce qu'on n'a pas pu garder dans l'extrait encore, c'est qu'évidemment, lui, il s'est préparé un petit plateau, puis il est attrapé par le même officier allemand dans le couloir qui lui dit « petit menteur ». C'est truculent comme scène. C'est des situations et des personnages qui sont très évoquantes et qui permettent une sorte de réconciliation aussi. Est-ce que c'est ça un peu le message aussi à destination des spectateurs?
Oui, je crois, parce que d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès énorme, parce que si le film a fait presque 18 millions d'entrées en France, en Allemagne, ça a été un score absolument énorme. D'ailleurs, De Funès est extrêmement populaire en Allemagne, encore aujourd'hui. Et c'est un petit peu à la fois le fantasme de la réconciliation nationale en France, parce que c'est un film où tout le monde est résistant, et c'est un film aussi qui donne une vision poétique, et dans lequel d'ailleurs De Funès transmet des moments d'émotion comme il le fait jamais. Et alors là, ce qui est frappant, c'est que dans cette scène, j'adore, d'ailleurs dans le catalogue de l'expo, on a passé en grand la photo où il ouvre le garde-manger et où il découvre ces morceaux de pâté, de poulet, de gâteau. Et ce fameux gâteau qui est à la gloire de l'officier du général allemand, donc un petit gâteau vert avec le bras tendu. Et je dirais l'acte de résistance de Louis de Funès, qui est un petit clin d'œil, c'est de manger le bras en pâte d'amande du général allemand qui fait le salut hitlérien et voilà, et le soldat allemand. On comprend très bien, nicht essen, officier allemand.
On n'a pas besoin de parler allemand en réalité.
Voilà, on ne mange pas les officiers allemands, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Ouais. C'est une forme donc de réconciliation. C'est important aussi d'apparaître et de faire apparaître des personnages qui sont quand même dans le pire de ce que l'on peut être souvent. La Grande Vadrouille peut-être pas, mais dans bien des films de Funès, on a l'impression que il est nous en pire, toujours en pire. Et alors, du coup, on peut se pardonner d'être pire.
Je dirais, il n'est pas seulement nous, il est vous. C'est-à-dire que il est beaucoup le voisin. Il est l'homme d'à côté, ce voisin insupportable, ce patron insupportable, ce petit chef insupportable, cet
odieux.
Odieux avec les faibles, mais obséquieux avec les chefs. Donc, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que sa carrière évolue avec ses rôles. C'est-à-dire qu'il commence, il ouvre la porte dans La Tentation de Barbizon en 1946, il ouvre une porte, la porte du paradis, et il progresse de film en film. Et donc il devient maître d'hôtel pour Sacha Guitry dans La Vie d'un honnête homme, où il a déjà comme soubrette Claude Jansac, sa future épouse des gendarmes. Ce qui est extraordinaire, je trouve, avec lui, c'est que il va monter pour, dans Rabbi Jacob, devenir président de société, ministre.
Socialement, il est très fort.
Ministre à la Folie des grandeurs. La phrase préférée, paraît-il, du président de la République, dans des répliques de Gérard Houry et Daniel Thompson, c'est « Je suis ministre, je ne sais rien faire ».
Quelle place avait la nourriture, justement, pour Louis de Funès dans les tournages? Est-ce qu'il y prêtait une attention?
Ah bah oui. Il y prêtait une attention toute particulière. C'est-à-dire que, non seulement c'était un gourmand et un gourmet, mais il imposait la cantine d'extérieur. Il choisissait tout. Il choisissait à partir des années, du mi-temps des années 60, où il va vraiment être l'acteur le plus important du cinéma européen. Il décide de tout, du choix du studio, même du laboratoire qui va développer le film.
Oui, d'ailleurs, dans l'exposition, il y a une lettre écrite à destination justement pour les studios, pour la cuisine.
Oui, il s'adresse à son producteur, Alain Poiret, et il lui dit « on prendra Antoinette pour la cantine d'extérieur ».
Pour le grand restaurant, il y a cette scène à laquelle vous avez fait allusion au début de l'émission, du soufflé de pommes de terre. Pourquoi est-ce qu'on a à nouveau ce symbole et cette scène extraordinaire que je vous propose de réécouter parce qu'elle est jubilatoire, qu'on adore?
Cher ami.
Oh, monsieur le commissaire divisionnaire.
Je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers, le commandateur Riganti.
Oh, comme est-ce?
Et son confrère allemand, le docteur Müller.
Sehr angenehm.
J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre.
Ja, s'il vous plaît.
Mais vous savez que c'est un secret professionnel.
Oh, cher ami, entre nous.
Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire. Alors voilà, vous prenez 1 kg kartoffeln.
Für wie viele Personen?
Ça dépend, pour 6 personnes normales, ou alors pour une personne normale, une grosse personne. Alors, 1 kg kartoffeln, 1 L Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller. Ich wiederhole. 1 kg Kartoffeln. 1 L Milch. 3 Eier. 90 Gramm Butter. Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Riganti, monsieur le commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller?
Ja.
Auf Wiedersehen, Herr Müller.
Le grand restaurant, cette scène incroyable, on voit donc l'ombre de la moustache qui fait comprendre qu'il incarne comme si c'était Hitler à table et qui donnait la recette. C'est presque une coïncidence en fait, elle a dû être refaite cette scène.
Ah non, c'est pas une coïncidence. Non, il a travaillé cette scène, je crois qu'il était complètement furax d'ailleurs, parce qu'ils arrivaient pas, ils trouvaient pas la solution et il a eu cette idée-là. On s'est beaucoup amusé avec Thibaut Brutin, avec qui on a travaillé sur cette exposition, à retrouver des correspondances entre des grands films burlesques. Il est évident qu'il y a un petit clin d'œil au dictateur de Chaplin. Et moi, j'ai un grand regret, c'est que il y avait un film qu'il rêvait de faire, qui s'appelait Le Crocodile, que Daniel Thompson avait écrit aussi avec son père Gérard Houry, qui devait être le 6e film Houry de Funès. Il devait jouer le rôle d'un dictateur à une époque où en Espagne, en Grèce et dans les pays de l'Est, il n'y avait que des régimes dictatoriaux.
Et ça, ce film n'a jamais pu être fait.
Il n'a jamais pu être fait, c'est dommage. On présente dans l'exposition là tous les costumes, tous les dessins de Jacques Fontré. Mais ça explique peut-être aussi, ce qui est amusant, c'est que tous ces pays de régime autoritaire. Tous ces pays faisaient un énorme succès au film de Funès, peut-être justement parce que ça permettait de rire du régime sans beaucoup de risques.
Alors, c'est un amateur aussi de cuisine étrangère
bien sûr.
Internationale.
Bien
Il
sûr.
Nous fait notamment découvrir un petit peu de cuisine japonaise. Et je vous propose de tester un petit peu de cuisine anglaise, évidemment.
Ah, bien enfin, sûr.
Parce qu'on adore.
Bien sûr, les huîtres.
Les huîtres.
Qu'est-ce que c'est ?
Oysters à la parisienne.
Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait.
Ah, oh, ça c'est étonnant. Oh là là ! Attendez. C'est délicieux ! Delicious ! Mange, mon fils ! C'est délicieux, mange ! Que c'est bon ! Voilà. Aïe, aïe, aïe.
Ça c'est le dessert.
Ah non !
Hein ?
Non, ça c'est la viande.
Ah.
Avec la chantilly.
Ah, ça c'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Allez.
Delicious. Delicious. Tiens, mange, mange. Allez, mange, mon fils.
Vous aimez la cuisine anglaise?
Oh, I like it. It is delicious.
Thank you. Vous êtes un gentleman.
Bichonnet, il faut finir. Allons!
Ou comment rassembler tout un peuple autour d'une indignation, quand même.
Bien sûr. Alors on a raté le ad hoc mandarine à la sauce à la menthe.
On a gagné l'indigestion.
Mais vous avez bien fait. Mais Bichonnet, il faut dire qui c'est, parce que c'est un acteur absolument génial, qui est Maurice Rich, d'ailleurs qui a permis de faire le lien avec Claude Jansac. Et Maurice Rich, il dit dans le catalogue de l'exposition, il nous dit un truc absolument formidable. C'est qu'il dit « l'œil de Funès était d'une telle vérité ». Et qu'il jouait avec son œil, enfin, ses partenaires jouaient avec, parce qu'il était toujours très très bien entouré de Funès. Il avait sa bande, type comme Maurice Rich, il joue dans plusieurs films, il est dans le grand restaurant, il est dans les grandes vacances, mais.
Comme une reconnaissance
aussi. Il est aussi dans les gendarmes. C'est une famille. C'est-à-dire que de Funès était un type extrêmement angoissé.
Tout le temps très inquiet.
Très inquiet parce que lui, il aspirait à être second rôle. Il voulait être un acteur comme Carrette, comme Daliot, comme...
Et une vedette ne l'intéressait finalement
non,
pas plus
c'est pas,
que ça.
C'est pas tellement ça, c'est plutôt qu'il avait peur de descendre. C'est-à-dire quand on est monté aussi haut, pour un homme qui a eu du succès aussi tard, parce qu'il faut attendre 50 ans pour qu'il soit au sommet du box-office. Et il s'est dit, bon, qu'est-ce qui est plus facile à faire après le succès inégalable pendant 30 ans, 40 ans de la Grande Vadrouille, qu'on ne peut que redescendre. Donc il y a forcément cette boule d'angoisse qui l'oblige à manger.
Une inquiétude, d'ailleurs, il expliquait cette inquiétude en parlant des mouches aussi. Il se demandait pourquoi une mouche volait autour de lui et qu'est-ce qu'elle faisait là. Et il était inquiet du coup du vol de la mouche. Donc c'était vraiment quelque chose qui a marqué toute sa vie. Il y a tout au long de sa filmographie aussi, et s'intensifiant plus on va dans sa carrière, la notion de la table et des affaires. Évidemment, on fait des affaires à table dans le Tatoué, on essaye d'acheter le dessin de Modigliano sur le dos de Gabin. Est-ce que ça, c'est un symptôme français également ?
Oui. Oui, je crois que c'est très important. Je crois d'abord que on est le pays. Je suis très content parce que je fais une exposition en ce moment à la Villette sur le repas gastronomique des Français. Mais c'est le repas des Français, c'est aussi un moment de partage, de discussion. C'est-à-dire le repas d'affaires, c'est un truc très.
C'est une institution.
Oui, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'a été à l'époque de Funès. C'était capital. On arrivait en DS avec son chauffeur dans un grand restaurant comme le restaurant.
Comme le grand restaurant d'ailleurs.
Et on faisait des affaires à table. Oui, c'était.
Quitte à boire un petit peu trop. Pour signer des chèques plus facilement.
Oui, c'est important.
C'est plus logique comme ça, n'est-ce pas ?
Ça aide.
C'est de la tradition française.
Je suis le président. Voilà, vous signez ici.
Le président signera le contrat après le repas. Exquise cette cuisine française.
Monsieur Philippe, Bernadette Léontine, le calvados.
Quoi ?
Le calvados.
Guillaume, l'art culinaire.
Oui, mais les affaires, puisque... Ah, regarde. Trou normand, vieille coutume française.
comme harakiri, vieille coutume japonaise. Alors, attention!
Du sec!
Maintenant, signez. Voilà. Ah, merci. Oh, merci. C'est fini, c'est fini, c'est terminé. Vieille coutume française. Alors, Tokyo, avion, direct. Allez, hop.
Hop, tout le monde à Tokyo.
Ah, vous avez vu, c'est extraordinaire parce que il a retenu les leçons du Tatoué, hein, qui est un film qui est quasiment 10 ans avant, et il applique la méthode Jean Gabin à ses potentiels acheteurs japonais. C'est marrant parce que c'est un film assez intéressant, La Zizanie, parce que il y a deux choses. Il y a De Funès qui a été malade et qui n'a plus la capacité de jouer physique comme il jouait physique.
Dont on va parler, bien sûr.
Et il y a une scène incroyable où dans un bal masqué, il se déguise en Louis de Funès. Et dans l'exposition, on a retrouvé à la fois l'empreinte, et on dirait un masque mortuaire, mais d'un homme qui sourit, et ce masque en plastique qu'il colle sur son propre visage. Et c'est vraiment, moi je trouve absolument fascinant de voir comment cet homme s'implique, rentre dans ses personnages et les dévore.
Littéralement.
Littéralement.
Tous ensemble. Allons.
Le goût du monde.
Allez-y.
Clémence de Navy.
Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Sortez.
Ça allait pour moi, monsieur Septime?
Oui, c'était pas mal, mon petit Roger.
Fausse tombe.
Fais attention, vous, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
Bonjour Joignier, vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes à table avec Louis de Funès et Alain Kruger, le commissaire de l'exposition consacrée à cet immense acteur à la Cinémathèque à Paris, et cette danse évidemment.
Ah ben moi ça me bouleverse parce que c'est vraiment la rencontre de toute la famille de Funès. Parce que cette danse qui préfigure un peu la danse de Rabbi Jacob aussi, hein, cette danse est chorégraphiée par Colette Brossé, qui était la compagne de Robert Derry, la partenaire, les créateurs des Branquignoles, qui est vraiment la famille de cœur de Funès sur ses débuts en scène, au théâtre, puis au cinéma. Il y a Grosso et Modo, il y a Maurice Riche, il y a toute cette famille qu'il va retrouver, et puis il y a ce délire, cette folie collective que l'on retrouve chez les Marx Brothers. Enfin, il y a clairement un clin d'œil aux Marx Brothers.
Et puis pour vous particulièrement, parce que ça a été le générique de votre émission.
Ah, c'était
France
le générique,
Culture.
On ne parle pas la bouche pleine. Absolument.
Oui, oui. Cette danse incroyable, grand restaurant, c'est Septime, un peu pervers quand même, ce personnage qui est dictateur, qui contrôle tout dans les moindres détails. Quels sont ses exemples?
Il a beaucoup observé quand il était pianiste, comme le personnage de Roger Caccia dans le film, là, qu'on entend jouer du piano. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il a visiblement, c'est un homme qui a souffert. Qui a été, le mot est pas trop fort, un peu persécuté par ses employeurs, justement quand il était pianiste.
Une forme d'humiliation aussi.
Oui,
on sent
oui,
clairement que les courbettes et les...
Il lui faisait manger des raisins dans la cuisine. C'est vraiment ça, hein. Et donc tout ça, il l'a vu. Je veux dire, les coulisses des restaurants, il les connaissait par cœur. Et quand il écrit, parce que c'était vraiment son projet de premier film, après le succès, après l'année du Cornio, du premier gendarme, et du premier Fantomas, je veux dire, on sent que c'est un homme qui peut faire ce qu'il veut. Et quand il écrit ce film, c'est pas neutre. C'est-à-dire, l'alimentation est importante. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est de voir comment ce film a inspiré aussi les grands chefs de la cuisine française. C'est-à-dire que Yannick Aleno a fait avec...
Oui, parce qu'alors il faut juste préciser que ce film se passe au pavillon Le Doyen.
Absolument.
Enfin, ce qui est aujourd'hui le pavillon Le Doyen, que dirige, en cuisine en tout cas, le chef Aleno. Il a reproduit du coup la danse du Cossack.
Alors, il a fait une carte de vœux où il fait une carte de vœux en vidéo, où il faisait danser toute sa brigade. Je voulais la présenter à l'exposition, mais il y avait problème de droit. Bertrand Grébeau, le chef du Septime, qui est aussi un chef étoilé, s'appelle, son restaurant s'appelle Septime, donc c'est un hommage direct à De Funès. Et le chef Jean-François Piège a appelé son grand restaurant le grand restaurant. Les hommages sont permanents et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, pour tous ces gens-là, De Funès est très important.
Omnipotent, ce Septime du grand restaurant complètement, qui se déguise un jour pour voir un petit peu comment son personnel se comporte en salle, et ça donne cette scène aussi truculente. D'histoire de radis et d'eau minérale.
Je me permets de vous recommander le canard à la rouennaise.
Le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours.
Au velours.
Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole.
Alors ça, je vous recommanderai pas.
Le lapin, vous ne me recommandez pas. Non. Attendez, me vient une autre idée poétique. Attendez. J'ai une autre idée poétique. Voilà. Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite?
Et si j'ai encore une petite fin, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Et puis alors vite, parce que je suis très pressé.
Ce sera rapide, monsieur.
Non, vous me laissez, monsieur. Ah! Monsieur? Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi, parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper moi. Vous là. Attendez. Comment elle est, votre eau des viands?
Elle est très fraîche.
Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle?
Elle est bien aussi.
Elle est bien. Alors, écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Vous savez, voilà.
Cette alors, scène qui est en écho à une autre scène également, je crois.
Alors, je dirais avec trois autres scènes, parce que d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est d'entendre Pierre Tornade, le maître d'hôtel, puis Paul Prébois, le sommelier. C'est sa troupe, c'est sa famille. C'est-à-dire Prébois dans Hibernatus, ou Prébois qui a la Légion d'honneur là, et Prébois dans Oscar, c'est dément. Enfin, et on sent qu'ils jouent ensemble. On l'entend, je veux dire, cette excitation.
Mais jouer dans le terme propre,
voilà,
premier.
Ils jouent, de s'amuser. Mais c'est ça, c'est merveilleux dans ce métier de comédien. Et alors, ce qui est amusant, c'est que De Funès rend aussi, à mon avis, un hommage au film de Duvivier, avec Jean Gabin, qui s'appelle « Voici le temps des assassins ».
Il y a une scène aussi de radis.
Il y a une scène de radis et une scène de minéral, et où Paul Demange, qui est l'acteur, qui est aussi un acteur qui a partagé des films avec De Funès, et qu'on va retrouver dans des films de De Funès, Paul Demange commande d'abord un radis et une eau minérale, grande source, et à la fin du film, il commande un repas pantagruélique, comme va le faire Coluche, dans « L'aile ou la cuisse ». Et dans « L'aile ou la cuisse », on va avoir un autre clin d'œil de De Funès à ce film, puisque la scène du radis, il va la refaire déguisée en vieille dame, alors qu'il est Monsieur Duchemin, l'académicien.
Qui demande une eau minérale et qui ne vient jamais, qui n'arrive jamais.
Voilà.
Des correspondances et des correspondances de film en film. Ce qui va se passer à ce moment-là de sa carrière, c'est une vraie bascule, puisqu'il a un accident de santé très grave, puisqu'il a un infarctus. On est en 1975.
Voilà, c'est-à-dire qu'en 1974, il fait des folies de son corps.
Ouais. Mais même dans les jeux, on le voit suant, on le voit, il se donne corps et âme.
C'est ça, il joue Oscar au théâtre tous les soirs, puis après, il va jouer la valse des Toréadors d'Anouilh, où il va s'esquinter.
C'est physiquement très 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 exigeant.
Pendant la préparation du Crocodile, le Crocodile, c'était aussi un rôle très physique, et au moment où ils sont en pleine préparation du film, il a ce double malaise cardiaque qui va l'empêcher de revenir en scène à tous les sens du terme.
D'ailleurs, on a dit qu'à ce moment-là, qu'on ne le reverrait plus au cinéma.
Absolument.
Cependant, lui, il a une idée en tête, pas d'assurance, ce qui complique même clairement la situation, mais il a déjà l'aile ou la cuisse en tête.
Alors, il y a Christian Fechner, le producteur magicien, qui était allé voir avec Claude Zidi à plusieurs reprises de Funès au théâtre, qui rêvait de faire un film avec lui. C'est, Christian Fechner était vraiment l'un des plus grands fans qu'on puisse imaginer de Louis de Funès, et donc il a réussi à faire l'aile ou la cuisse, alors que de Funès n'était pas assuré. Pierre Grunstein avec Claude Berry étaient ses partenaires dans cette affaire-là, et ils se sont bagarrés pour réussir à faire ce film. Et on voit que physiquement, il n'a pas la même puissance.
Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que son temps de tournage était vraiment réduit. Il avait le droit à 3 heures de tournage par jour, ce qui, en termes de scènes filmées, 3 heures, quand on parle de cinéma, c'est pas beaucoup.
Et ce qui est amusant aussi, c'est que dans ce film, il est le patron, l'auteur, académicien du guide du chemin,
un guide rouge
qui rappelle un autre. Et ce qui est frappant, c'est que lui, qui a autant souffert de la critique cinématographique et pour l'occasion critique gastronomique, qui est, les deux métiers n'étant pas forcément incompatibles.
Mais avec les problèmes que ça peut susciter, puisque quand on est critique gastronomique et qu'on enlève des étoiles à un restaurant, on peut s'attendre parfois à quelques déconvenues.
Et des réactions violentes.
Et des réactions un petit peu violentes.
Mangez !
Mais je ne mangerai pas ! Mais si ! Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Monsieur Duchemin, les relais des cigales. Ça vous rappelle rien ? Spécialité italienne, du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes 2 étoiles ! Vous vous souvenez maintenant ? Et vous m'avez ruiné ! Mangez ! C'est pas très bon, hein ?
C'est même très mauvais.
Oui. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein?
Eh oui.
Mais au relais du cigale, c'en était déjà.
Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Hein? Parce que là, c'est pas vous?
Ah non! Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout.
Vous avez fini?
Oui, c'était très bon.
Mais... Oh non, asseyez-vous! Ah oui, maintenant vous allez goûter les restes, hein? Il y a les escargots, vous voyez? Tina! Servez, monsieur.
Ah non, je l'ai mangé!
Mangez!
Ah, c'est très mauvais, hein? Ah oui, ça c'est terrible, hein? Tina, les huîtres!
Allez, il n'y en a que 3, hein? Mangez.
Qu'est-ce qu'il y a, hein?
Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches?
Ah non, mais il n'y en a que 3, hein? La suite, la choucroute.
Allez.
Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein?
On ne s'y habitue pas.
Oh, il faudra bien. Il n'y aura plus que ça bientôt.
Il n'y aura plus que ça bientôt. Ça annonce un autre grand combat de Louis de Funès.
Moi, je suis frappé de son côté visionnaire, parce que ce sont des films qui ont 50 ans, hein, de son côté visionnaire sur le fait de dire gare à l'agro-industrie, gare à la nourriture industrielle. Et de Funès disait, s'il n'y a qu'un seul combat qu'on peut mener, enfin une seule raison pour descendre dans la rue, c'est se battre pour la nature. Et il avait vraiment, enfin, il a préempté cette idée de la nourriture vivante, puisque c'est vrai qu'il cultivait son jardin et qu'il cultivait.
C'est un pionnier, oui, de l'agriculture biologique. On l'entend absolument. D'ailleurs dans une interview qu'on a retrouvée sur l'INA, évidemment.
Avec Alain Bougrain-Dubourg.
Voilà, avec Alain Bougrain-Dubourg, où il explique qu'il n'utilise pas de pesticides. Il utilise les pucerons font très bien le travail et ça va très bien pour les humains comme pour la nourriture qu'on mange. Il se nourrissait beaucoup et spirituellement aussi de son jardin. Cette consommation excessive, est-ce que la France n'était pas un peu au bord de l'indigestion à ce moment-là ?
Mais c'est très frappant. C'est qu'il y a chez lui réellement la conception d'un monde qui est en train de délirer. Je veux dire, et l'histoire de Tricatel.
Donc l'industriel qui produit cette...
Dans l'aile ou la cuisse, qui est joué génialement par Julien Guillaumard. Hein, on sent vraiment qu'il y a une espèce de trop. Voilà. Il dit ça suffit, quoi. L'idée de la croissance à tout prix, de faire, enfin, c'est la période en plus où on brûle des tonnes et des tonnes de légumes parce que il y a une surproduction absurde. Et lui, il va vraiment à contre-courant de ça et il le fait avec un cœur fou. De toute façon, il n'y a jamais de cynisme. C'est un personnage qui est toujours droit. entier, fidèle à lui-même, et je crois très timide. Donc il est réservé à son cercle intime, je dirais sa fantaisie, qui était peut-être un humour plus, comme il le disait lui-même, s'il jouait sa mère, qui était très truculente, très phénoménale,
et
aussi très gourmande, qui lui a pris le piano, il avait un humour peut-être plus proche de son père, qui était plus british.
Ce qui est ironique aussi, c'est que dans la cuisse, à l'issue de cette terrible scène où il mange de la nourriture avariée, il se retrouve à l'hôpital, c'était complètement un reflet de sa propre vie, où il est atteint d'agueusie. Agueusie, c'est quand on n'a plus de goût.
Oui, c'est assez frappant parce qu'il y a un grand critique qui est François Simon, qui examine les cinq sens du critique gastronomique et qui parle du goût en dernier. Finalement, c'est que quand on a senti, vu, testé la texture des aliments, ben on les a presque goûtés. Et c'est ce que fait absolument divinement de Funès quand il fait une dégustation de vin à l'aveugle, entre guillemets.
Alors, il y a un film qui est, pour moi, en tout cas, une sorte de film testament avant l'heure pour Louis de Funès, c'est La soupe aux choux. Parce que lui, qui est attaché donc au terroir, qui va se battre contre cette malbouffe, fait un film, justement, où, ben, regardez, la France telle qu'elle est, telle qu'on l'aime, on va la présenter à un extraterrestre.
Mais si ça se trouve, t'as guère soif! T'es fou de faim, t'oses pas lui demander, allez! Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bac à l'enratif. Gamin, on attaque. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Et voilà mon gars. T'es calé pour la route.
Alain Crugère, je vous laisse le mot.
Mais non, mais c'est formidable parce que...
Il y a tout dans cet extrait.
L'un de ses films préférés, c'était un film de Serge Corbère qui s'appelait Un idiot à Paris, où il y a une scène absolument géniale d'ailleurs avec Blier et des bouchers en pleine grève, qui est où l'acteur principal est Jean Lefebvre. Et il aimait tellement ce film qu'il l'a même passé à son réalisateur pour lui montrer le film qu'il aimait. Mais ce que je trouve frappant là, c'est que on est toujours dans René Fallet et que le film est, il y a une espèce de hiatus dans le film entre le film qui est reconstitué en studio et le discours du film qui est totalement naturel, c'est-à-dire et cette soupe aux choux, on a envie de la manger, on a envie de la manger aussi avec Villeray, on a envie de se retrouver aussi avec Jean Carmé qui était un de ses vrais copains. Ils avaient démarré ensemble au cabaret La Tomate au tout début de leur carrière dans les années 40, et là on est 40 ans après. Et c'est vrai que c'est un peu un film testament. C'est un film assez tragique d'ailleurs. C'est un film sur la mort.
Et qui se termine aussi avec un constat très triste, qui est nous les derniers Mohicans de cette terre. On va essayer de la faire survivre à Oxo, qui est une planète quand même qui a un nom de bouillon instantané anglais. Donc c'est une ironie. Dites-moi, Alain Crugère, si Louis de Funès venait à s'asseoir là à la table, il est là depuis tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous lui proposeriez de manger? Où iriez-vous? Et qu'est-ce qu'il penserait de ce qu'on mange aujourd'hui et de comment on est?
Eh bien, moi, j'aimerais bien aller dans la vraie ferme de René Fallet, dans le Bourbonnais, partager avec lui, justement, une soupe aux choux, un chou farci, un peu plus aveyronnais cette fois, mais manger, oui, des choses simples avec un vin assez frais, un vin rouge assez frais. Et puis, vous savez, moi, je suis frappé par le nom du gendarme. Il s'appelle Cruchot. Et il permet de faire la communion entre Jean Lefebvre, qui s'appelle Fougas, le pain, oui, et Christian Marin, qui s'appelle Marlot, le vin. Je trouve que de Funès, c'est un peu tout ça. C'est cette espèce de syncrétisme, de la fantaisie, de la joie, et aussi de cette espèce d'angoisse qui accompagne tous ces films et qui font aussi que nous, on voit que de film en film, il y a un humain particulier.
Vous étiez où? quand vous avez vu votre premier film de Louis de Funès, vous vous souvenez?
Oui, j'étais en Algérie, j'étais à Oran et j'ai vu Le Corneau, La Grande Vadrouille. Et le premier film que j'ai vu à Paris, c'était Le Petit Baigneur, qui était ce film absolument merveilleux avec son copain Robert Derry.
En tout cas, on a eu de la chance parce que pendant les mois de confinement, ces films ont été rediffusés. Et toutes les générations ont rigolé, oui.
Pardon, mais ils étaient censés aussi accompagner l'exposition qui devait démarrer le 1er avril. Mais c'était un 1er avril.
Et toutes les générations rient. Et ce sont des films pour tout le monde.
Pour le monde entier.
Je voudrais juste terminer cette émission sur un dernier extrait qui, à mon sens, illustre beaucoup aussi le propos de Louis de Funès.
Claude, mon eau, sans me vanter. C'est la meilleure du coin pour la soupe et pour le perniflard. Il y a là-dessous une nappe phréatique, comme il n'y a point dans tout l'Allier. Quand je pense que t'as supprimé ton puits pour l'eau du robinet, ça me fait sortir une maculotte à reculons.
Mais tu sais bien, c'est la Francine qui l'a volé sur l'évier. Les bonnes femmes leur font tout le confort moderne maintenant.
Ah, leur faut même l'égalité aux fumelles. Ils vont être mignons, hein, les gamins, si elles se le fabriquent tout seules, à grands coups de string quelque part. On nous sortir que des hippocampes, comme on en trouve dans les mares. Ou bien des diabétiques. Elle glaude. Mon eau. Elle a une température de haute précision pour le perniflard. Au degré près. Si c'est glacé, ça tranche le vent. Mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles.
L'eau, la vie, comme la rosée du matin sur les feuilles, Alain Crugère.
Ben oui, mais moi, vous savez, Jean Carmé, c'était le poète préféré de Gérard Depardieu. C'était aussi ce compagnon des débuts et de la fin de carrière de Louis de Funès. Et en même temps, ils traversent le temps tous. C'est ce qui est formidable, c'est que ils sont immortels grâce au cinéma. C'est merveilleux le cinéma.
Merci beaucoup. Merci Alain.
Merci à vous.
Louis de Funès, à la folie. C'est à la Cinémathèque à Paris. Non, ça c'est le catalogue.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Donc il y a un catalogue dont on a parlé pendant l'émission. Donc Louis de Funès, c'est à la Cinémathèque à Paris jusqu'au 31 mai prochain, donc jusqu'avant l'été. Donc on a le temps d'en profiter, mais il faut y aller avec les enfants et tout le monde. Donc Louis de Funès à la folie, ça c'est un catalogue qui est paru aux éditions de La Martinière.
Oui, avec Thibaut Brutin comme compagnon de route.
Un délice à lire et à regarder, évidemment, à la Villette, au pavillon de la Villette, pour une autre exposition autour du repas gastronomique des Français qui célèbre cette année ses 10 ans d'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité et également le coup d'envoi bientôt de la cité de la gastronomie Paris-Rungis. On ne parle pas la bouche pleine, c'est sur France Culture et c'est à écouter sur votre application de podcast préférée comme vous pourrez écouter aussi Le Goût du Monde. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission. À vous, évidemment, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure.
Mesdemoiselles, écoutez. Elisabeth Laferme.
Petit pas. Pidi pidi pa,
pidi pidi pa, pidi pidi pa,
5, 6, 7.